chanson. Bonjour, bienvenue au Mardi de la mémoire, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bonjour Vincent Sanson, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci d'avoir accepté de participer. Je présente aux auditeurs, vous êtes ancien colonel de l'armée de terre, ancien attaché de défense à Copenhague, docteur en histoire, spécialiste de la civilisation scandinave ancienne. Et avec vous, nous allons parler du Groenland et présenter aux auditeurs cette histoire méconnue, mais remise sur le devant de la scène par les prétentions américaines. Je dis les prétentions américaines pour éviter de dire les prétentions de Donald Trump, puisque en fin de cette émission, les auditeurs écouteront un entretien que j'ai eu avec Mériadec Raffray qui rappelle combien cela est ancien, les prétentions des États-Unis à s'emparer du Groenland. Je précise également à nos auditeurs que le bimensuel Le Figaro Histoire, le numéro 85 d'avril-mai 2026, est consacré à ce sujet, à la conquête du Groenland, des Vikings à Donald Trump. Alors Vincent Sanson, bonjour.
Bonjour Anne, merci pour cette invitation. Très heureux de m'entretenir avec vous sur Radio Courtoisie.
Eh bien, écoutez, qu'est-ce que c'est qu'un spécialiste de l'histoire de la Scandinavie ancienne?
Eh bien, la Scandinavie ancienne, c'est une expression qui couvre en fait la période qui s'achève avec l'entrée de la Scandinavie dans l'univers de la chrétienté occidentale. Progressivement, selon les régions de la Scandinavie, plus ou moins à partir de l'an 1000 et du début du 11e siècle. La Scandinavie ancienne, eh bien, c'est la civilisation pré-chrétienne, c'est la civilisation de l'âge des Vikings, mais également les siècles qui l'ont précédée. C'est une civilisation extrêmement riche, extrêmement ancienne, hein, qui a des racines qui remontent évidemment au passé indo-européen. Voilà, donc la
Alors,
Scandinavie
dans...
ancienne, c'est aussi une immense littérature, une immense culture, littérature qui est une forme de miracle, puisque, comme vous le savez sans doute, en Islande, à partir du XIIe, XIIIe siècle, eh bien, se développe une littérature considérable, grâce à laquelle nous en savons davantage sur l'ensemble de la culture et des croyances, non seulement des peuples scandinaves, mais plus généralement du monde germanique.
Alors, Vincent Sanson, est-ce qu'on peut délimiter géographiquement, d'un point de vue des territoires, cette région dont je pense que la méconnaissance vient aussi de la complexité, la méconnaissance pour des personnes qui ne seraient pas comme vous spécialistes de l'histoire de la Scandinavie ancienne, parce qu'il y a quand même une complexité territoriale, une complexité aussi de dénomination. On va parler de Scandinavie, on va parler de l'Arctique, on va parler du pôle Nord, on va parler du Groenland, dans une réalité géographique que j'aimerais bien peut-être que nous commencions par là à dégrossir le sujet.
Oui, alors effectivement, avant d'aborder la question du Groenland, qui est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, eh bien, la Scandinavie, au sens strict, c'est un ensemble de pays qui couvre aujourd'hui le Danemark, la Suède et la Norvège. La Finlande fait partie du monde nordique, mais n'est pas, au sens strict, une terre scandinave si l'on prend des critères non pas géographiques, mais des critères linguistiques, puisque le finnois n'est pas une langue indo-européenne, à la différence des autres, à la différence des langues scandinaves, qui, elles, appartiennent à la famille germanique des langues indo-européennes. Évidemment, à cet ensemble géographique des trois royaumes que je viens de citer, Danemark, Suède, Norvège, eh bien, il faut ajouter des territoires qui ont été colonisés depuis le Moyen Âge par les Scandinaves, que ce soit au milieu de l'Atlantique Nord, les îles Féroé, à mi-chemin entre l'Écosse et l'Islande, et puis bien évidemment l'Islande elle-même, qui est une terre qui, d'un point de vue culturel, est une terre scandinave, puisque les Islandais sont les descendants de colons pour l'essentiel norvégiens. Et puis, évidemment, ces Islandais, poursuivant l'aventure maritime, sont allés coloniser le sud du Groenland. Et c'est, je crois, ce qui nous amène maintenant au cœur du sujet.
Oui, bien sûr, oui. Alors moi, ce qui me fait rêver avec l'histoire du Groenland, vous allez voir, chacun a les rêves qui qui lui correspondent, mais c'est que l'histoire de la colonisation du Groenland va nous amener, quand nous parlerons de la période danoise et de la conquête d'une forme quand même de colonisation de la part du Danemark, c'est que ça fait référence à une période qu'on ne connaît plus et qu'on a tendance à oublier, c'est notre premier empire colonial. On va être au XVIIIe siècle, dans une période où les pays européens ont déjà un empire colonial que nous avons perdu, hein, ce premier empire colonial, le second aussi, mais... Et ça me passionne.
Oui, alors la présence scandinave au Groenland, elle se divise en deux périodes. La période à laquelle vous faites allusion, qui commence en 1721 avec la mission du pasteur norvégien Hans Egede. Rappelons que la Norvège, à cette époque, fait partie du royaume de Danemark et de Norvège, et que c'est donc le souverain danois qui règne également sur la Norvège. Mais ça, c'est la seconde période de présence scandinave, au XVIIIe siècle, présence qui est donc ininterrompue jusqu'à nos jours. Mais il y a eu évidemment une première période à l'âge des Vikings. Puisque... Oui,
est-ce qu'on peut d'abord, Vincent Sanson, dont je rappelle que nous parlons de l'histoire du Groenland avec vous, qui est un docteur en histoire et spécialiste de l'histoire de la Scandinavie ancienne, ce Groenland, avant d'être atteint par nos amis vikings dont nous allons parler, c'était une terra incognita, comment se passait le... Non, on avait, j'imagine quand même que les côtes qui sont à peu près 300 kilomètres de l'Islande étaient connues. Enfin, on savait qu'il y avait quelque chose au-delà de l'Islande.
Oui, alors tout d'abord une petite précision, j'ai parlé d'âge des vikings, ce qui est une facilité de langage, puisque c'est ainsi qu'on désigne généralement cette période de l'histoire, qui commence à la fin du 8e siècle et qui s'achève au milieu du 9e siècle, mais ce serait un abus de langage pour le coup que de qualifier l'ensemble des Scandinaves de cette époque de vikings. Vikings, ce n'est pas une ethnie, vikings, c'est une situation particulière, c'est le fait de participer à des expéditions lointaines et à des raids de guerriers. Et donc, voilà, il serait abusif de qualifier les Islandais qui s'installèrent au Groenland de vikings. Le terme n'est pas le mot propre. Lorsque ces Scandinaves, ces Islandais venus pour la plupart déjà de Norvège, hein, sur le plan familial, je dis bien pour la plupart parce que la situation est un peu plus complexe que cela, mais lorsque ces Scandinaves arrivent au Groenland, c'est un territoire qui a été précédemment peuplé pendant un certain nombre de millénaires de populations de civilisations d'origine amérindienne du Nord. Ce sont des cultures qui se sont installées localement à partir de 2500 avant notre ère, jusque vers 300 avant notre ère, une succession de cultures que les spécialistes... Alors je suis pour le coup pas du tout spécialiste des cultures inuites, donc là je vais couper un peu dans les virages parce que c'est un sujet qui est évidemment complexe, mais culture de Sakwaak, culture indépendance, et ensuite la culture de Dorset. Mais cette première vague de peuplement inuit s'éteint, semble-t-il, les derniers siècles qui précèdent notre ère. De telle sorte que quand les Scandinaves vont s'installer venus d'Islande au sud du Groenland, eh bien, ils ne vont tout d'abord pas être au contact de populations locales, puisque ces civilisations ont disparu. Il y aura une deuxième vague de peuplement inuit que la plupart des spécialistes font commencer au milieu du XIIIe siècle. Et donc, ça signifie que lorsque ces Inuits, que l'on rattache à la culture dite de Thulé, s'installent au Groenland et descendent vers le sud de l'île, eh bien, les Scandinaves sont déjà présents sur place depuis plus de deux siècles. D'une certaine façon, ces Scandinaves sont en vérité les primo-arrivants à ce moment-là. Alors, c'est une histoire qui nous est connue par des sources qui sont assez complexes. Donc, ces colons sont venus d'Islande et ils s'implanteront au Groenland pendant environ cinq siècles, sur deux implantations essentiellement qui sont situées toutes les deux au sud de l'île. L'une qui était qualifiée d'établissement de l'Est et l'autre établissement de l'Ouest. Le Groenland est mentionné pour la première fois dans un document, dans une bulle papale datée de 1053, bulle papale qui confirme les droits de l'archevêque de Hambourg et de son église sur l'ensemble des terres du Nord, puisque au début du XIe siècle, enfin la moitié du XIe siècle, c'est encore une période où il s'agit de convertir la Scandinavie, dont certaines parties ont commencé d'adopter la foi catholique, mais ce n'est pas le cas de d'autres. Et donc il faut évangéliser ces régions, et c'est l'évêché de Hambourg qui a la charge de l'évangélisation et des missions du Nord. Et cette bulle papale de 1053 confirme donc cette mission de l'archevêque de Hambourg et de son église, et ce document précise quels sont les territoires qui sont couverts les responsabilités de l'archevêque de Hambourg, et dans ce document, le Groenland est mentionné pour la première fois dans un document historique. Une vingtaine d'années plus tard, donc plutôt dans les années 1070 et dans ces parages, Claire Adam de Brême rédige une œuvre qui est devenue célèbre, qui s'appelle précisément l'Histoire des archevêques de Hambourg, hein, la Gesta Hamburgensis Ecclesiae Pontificum. C'est une œuvre assez vaste dans laquelle il relate justement l'histoire des missions et des archevêques de Hambourg. Et le quatrième livre de cette œuvre s'intitule de manière très évocatrice Description des îles du Nord. Descriptio insularum aquilonis. Et c'est une vaste description de la Scandinavie de son temps, avec les informations qu'il a recueillies de manière directe ou plus souvent indirecte. Et dans ce document, dans ce quatrième livre, eh bien, Adam de Brême évoque le Groenland dans une notice. Et alors cette notice est assez curieuse, parce qu'on voit bien que ces informations ne sont pas de première main, si j'ose dire, puisque notamment quand il parle de l'Islande, il évoque l'habitat souterrain, nous dit-il, subterranes, hein, des habitants d'Islande. Alors il faut comprendre bien sûr qu'il a été mal informé et que ces habitats souterrains, ce sont en fait ces fameux torfbær, c'est-à-dire ces maisons couvertes de tourbe qui sont caractéristiques de l'habitat islandais traditionnel, hein, avec des charpentes et des murs recouverts de mottes de terre herbues. Ce qui fait dire à Adam qu'ils vivent sous terre, ce qui est évidemment une erreur. Et à propos du Groenland, il nous dit que les habitants sont de couleur céruléenne, comme la mer, nous dit-il, d'où vient le nom de leur pays. Ce qui est évidemment une étymologie complètement fautive, puisque si le Groenland s'appelle Groenland, c'est-à-dire en langue scandinave la terre verte, ce n'est évidemment pas parce que ces habitants sont de la couleur bleutée ou verdâtre des eaux des parages. Donc c'est une mention assez amusante dans ce texte datant de Brême. Donc ça, ce sont des textes qui sont rédigés évidemment en latin. Et puis après, nous avons dans la littérature norroise, eh bien, toute une panoplie de textes extrêmement intéressants qui mentionnent le Groenland et qui mentionnent surtout les noms des premiers colons et les endroits où ils sont établis. Alors, un des premiers textes, c'est l'Islendingabók, hein, qui a été rédigé au XIIe siècle par le prêtre Ari Thorgilsson, donc un Islandais, et qui nous apprend qu'un certain Eirikur en Rausi, évidemment Éric le Rouge, se serait établi sur les côtes du Groenland et qu'il aurait donné le nom d'Eiriksfjörður, c'est-à-dire de fjord d'Éric, évidemment, à l'endroit où il s'est établi, nous dit cette source, vers 985. Donc nous sommes à la toute fin du Xe siècle. La Landnámabók, qui est le livre de la colonisation de l'Islande, qui est un ouvrage plus important, qui relate l'histoire des premiers colons de l'Islande, évoque également le destin d'un certain nombre d'Islandais qui sont partis au Groenland. L'ouvrage nous précise notamment que 14 navires auraient suivi Éric au Groenland. Et puis il y a d'autres textes importants, la saga d'Éric le Rouge, Eiriks saga Rausa, qui est une saga composée au XIIIe siècle, mais préservée dans des manuscrits un petit peu plus récents du XIVe ou XVe, la saga des Groenlandais, la Groenlinga saga, qui est conservée dans une compilation du XIVe siècle, la Flateyjarbók. Alors ces œuvres, en dépit de leur titre, puisqu'on y évoque Éric le Rouge et qu'on y évoque les Groenlandais, en dépit de leur titre, ces œuvres concernent surtout les expéditions qui vont être menées au Vinland, hein, c'est-à-dire la région qui correspond actuellement au golfe du Saint-Laurent, puisqu'on sait que les Scandinaves sont bien à cette époque allés jusqu'aux confins de l'Amérique du Nord, puisqu'on a même retrouvé sur l'île de Terre-Neuve, dans un site qu'on appelle Lance Meadows, les traces d'un établissement scandinave. Mais tout de même, ces deux textes, la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais, nous donnent un certain nombre d'informations intéressantes sur la vie au Groenland. Il y a notamment une scène dans la saga d'Éric le Rouge qui est particulièrement intéressante et importante pour la compréhension et la connaissance des croyances religieuses pré-chrétiennes. C'est une scène de divination. Le personnage central est une femme nommée Thorbjörg Lítilvölva, donc la petite prophétesse. Et c'est une scène qui a été très bien étudiée dans un magnifique ouvrage du professeur François-Xavier Dillmann, auquel je renvoie vraiment nos auditeurs, sur les magiciens dans l'Islande ancienne.
Alors François-Xavier Dillmann, que j'ai reçu déjà plusieurs fois à Radio Courtoisie, et qui nous a effectivement parlé de cette période très ancienne, très riche dans ses histoires, dans ses manuscrits, dans ses récits. Je voudrais, Vincent Sanson, je vous interromps un tout petit peu d'abord pour rappeler à nos auditeurs que nous parlons avec vous de l'histoire du Groenland, que vous êtes ancien colonel de l'armée de terre, ancien attaché de défense à Copenhague, capitale du Danemark, ce qui aide quand même quand on parle du Groenland, docteur en histoire, spécialiste de la civilisation scandinave ancienne. Et je voudrais peut-être apporter un tout petit, non pas complément, mais un tout petit, des précisions peut-être géographiques pour nos auditeurs. Essayez peut-être, chers auditeurs qui nous écoutaient, de prendre une carte et de regarder une carte qui est vue du ciel, qui regarde le pôle du ciel, pour bien vous rendre compte de la situation, du positionnement du Groenland par rapport à ces premiers pays dont nous parlons, c'est-à-dire l'Islande, le Canada essentiellement, et vous vous rendrez compte que le Groenland a une toute petite partie de son territoire qui est dans l'océan Atlantique, mais que la deux tiers, hein, peut-être même un peu plus, de son territoire se situe au-delà du cercle polaire, entre le pôle Nord et le cercle polaire, et dans un positionnement qui le rend donc à moins de 300 km de l'Islande, à 26 km seulement du Canada, dans sa partie nord-centre, hein, et que c'est un pays qui fait 2 millions de kilomètres carrés, c'est 4 fois la France. L'île qui est la plus proche du Groenland, là, est la
oui, alors,
je ne sais pas comment on prononce, elle fait, c'est quasiment l'Australie. Enfin,
oui, absolument. Alors, si vous le permettez, Anne, j'aurais voulu simplement, en quelques mots, terminer,
bien sûr,
d'apporter quelques précisions pour ne pas perdre le fil et que nos auditeurs voient bien la logique du propos. C'est en quelques mots, brosser l'histoire de la fin de cet établissement scandinave.
Bien sûr.
Et puis ensuite, nous pourrons parler de la période moderne et puis assez vite, si vous le souhaitez, évoquer des questions davantage liées à l'actualité, à la géopolitique et aux problèmes stratégiques, puisque en tant qu'ancien attaché, en tant que docteur en histoire, je m'intéresse à la période scandinave ancienne qui nous donne un peu de profondeur historique, mais en tant qu'ancien attaché de défense au Danemark, voilà, j'aurais plaisir à donner quelques éclairages sur les questions géopolitiques contemporaines. Alors pour revenir à notre colonisation du Groenland par les Scandinaves à la fin de l'époque de l'âge des Vikings, j'ai cité un certain nombre de sources, hein, il y en a d'autres. Sans abreuver le lecteur avec excessivement de références, mais la saga des frères jurés, la fausse Brazra saga, qui est intéressante parce qu'elle nous dit que elle nous indique qu'un parlement, un signe, s'est installé en 1025 dans un site qui porte le nom de Garðar, donc aujourd'hui Igaliku, au sud du Groenland. Et c'est une mention importante parce que cela montre cette notion de signe, hein, c'est un mot scandinave ancien qui désigne le parlement. Tous les gens qui connaissent l'Islande connaissent évidemment l'Alting, le parlement général de l'Islande. C'est une institution qui est importante dans le monde germanique ancien, où l'assemblée du peuple, ce fameux signe, joue un rôle important. Donc le fait qu'il y ait un signe qui soit mentionné au Groenland à cette époque, hein, dès le début du XIe siècle, eh bien, ça signifie que cette colonisation a quand même pris une certaine ampleur. Et ça nous est confirmé également par les données sur la présence d'églises et même la présence d'une cathédrale et d'un évêché sur ce même site de Garðar. La conversion au christianisme a donc eu lieu dans cette colonie islandaise du Groenland de manière très précoce, dès le début du XIe siècle, donc quelques décennies à peine après les premières installations. L'empreinte chrétienne est déjà importante. Évidemment, l'archevêché de Garðar nous est bien connu par un certain nombre de sources, mais également par les vestiges archéologiques, puisqu'on connaît les ruines de cette église, je vais y revenir tout à l'heure. Il y a un certain nombre de textes plus récents, notamment des textes du XVIIe siècle, mais qui s'appuient sur des documents médiévaux aujourd'hui perdus, aujourd'hui disparus, qui nous renseignent davantage sur l'ampleur de ces établissements. Et on pense qu'il y avait un petit peu plus de 200 fermes dans l'établissement de l'Est et environ 90 dans l'établissement de l'Ouest, hein, ce qui n'est pas rien. Et puis des sources médiévales norvégiennes comme l'Historia Norvegiae, l'histoire de la Norvège, ou le Konungskuksjo, c'est-à-dire le miroir royal, donc un ouvrage didactique rédigé au XIIIe siècle pour l'éducation du futur roi Magnus, qui deviendra Magnus Lagabøtir, Magnus le législateur, donc un souverain norvégien important. Bien, on évoque tout cela, et puis on parle des ressources économiques du Groenland. Et oui, déjà à l'époque, évidemment, les ressources économiques sont un enjeu important. Alors, les Groenlandais, les colons scandinaves du Groenland vivent essentiellement de l'élevage, de la chasse, de la pêche. Ils doivent importer pour leur construction du fer et du bois, parce qu'évidemment, ils n'en disposent pas sur place, ou en tout cas très peu, et ils exportent en échange de l'ivoire de morse, de l'ivoire de narval, de la laine de leurs moutons, des faucons, voilà, en échange de l'importation de grains, de fer et de bois. Donc une économie qui est assez dynamique et des produits rares et appréciés dans le reste de la Scandinavie, en particulier ces ivoires de morse et de narval. Mais il se trouve qu'en 1261, à peu près à la même époque que les Islandais, les Groenlandais vont accepter la suzeraineté du roi de Norvège. Les Islandais sont restés indépendants très longtemps. Mais les Groenlandais acceptent la suzeraineté du roi de Norvège en 1261 et les Islandais en 1262. Et cette suzeraineté norvégienne va malheureusement tarir une partie du dynamisme économique groenlandais parce que le roi de Norvège va s'arroger le monopole du commerce. Cet effet va être aggravé, si j'ose dire, par la détérioration du climat. De telle sorte que les voies maritimes devenant de moins en moins praticables, eh bien, les relations entre le Groenland et l'Islande et la Norvège vont se distendre. Il semble que la situation se détériore très vite à partir du XIVe siècle. Hein, les établissements de l'Ouest auraient été abandonnés au milieu du XIVe siècle. Et au XVe, les communications avec l'extérieur commencent à péricliter presque totalement. Nous connaissons des annales islandaises hein, qui mentionnent le séjour involontaire d'Islandais qui auraient dû résider pendant 4 ans au Groenland parce que embarquant de Norvège pour faire la traversée vers l'Islande, eh bien les conditions météorologiques auraient détourné leur navire et ils se seraient trouvés détournés jusqu'à la pointe sud du Groenland où ils auraient séjourné pendant plusieurs années avant de revenir. Mais après cette date, on n'a plus du tout trace de contact. Et il y a un certain nombre de navigateurs européens qui vont croiser dans les parages du Groenland sans nécessairement y débarquer ou en ne débarquant pas dans les régions de la pointe sud où subsistaient quelques colons scandinaves, de telle sorte que lorsque le marin anglais John Davis aborde en 1585 sur le site des établissements de l'Est, hein, donc des seuls établissements des derniers établissements qui avaient perduré, eh bien tout trace de population scandinave a disparu, et c'est absolument dramatique, puisque la communauté scandinave s'est éteinte. Il y a des débats scientifiques assez vifs, évidemment, depuis le 19e siècle, et même depuis le 17e, hein, sur la question de savoir pourquoi ces établissements scandinaves ont disparu, pourquoi la population s'est totalement éteinte. Il est tout de même très vraisemblable que c'est la détérioration du climat qui a rendu les conditions de vie particulièrement difficiles et le fait d'être coupé des relations avec l'Islande et la Norvège, eh bien, qui a amené cette communauté à s'éteindre. Et donc,
Une forme d'autarcie forcée
voilà, exactement.
liée évidemment. Vous savez, il y a un livre aux éditions Perrin de Philippe Boulanger qui s'appelle La géographie reine des batailles, mais on pourrait aussi dire le climat roi des. C'est pas, mais en tout cas, le roi de
Oui,
l'explication.
nous plaignons aujourd'hui des effets d'un cycle climatique qui tend vers le réchauffement, mais il faut bien constater qu'il y a eu aussi des cycles climatiques tendant vers le refroidissement dont les effets ont été assez catastrophiques.
Exactement. J'en profite pour
Et de
rappeler
telle
aux
sorte que.
auditeurs que je reçois avec plaisir aujourd'hui au Mardi de la mémoire Vincent Sanson, qui est docteur en histoire, spécialiste de l'histoire de la Scandinavie ancienne, et que nous parlons de l'histoire, nous essayons de proposer et d'expliquer à nos auditeurs l'histoire du Groenland pour un éclairage historique d'un lieu qui revient régulièrement dans l'actualité et dont je suis toujours très très surprise de voir les images d'Épinal qui sont véhiculées. On a l'impression, en tout cas les Français autour de moi, qu'ils imaginent qu'il a fallu attendre le commandant Charcot et Mallory pour que l'on découvre le Groenland, enfin qu'il n'y a pas eu d'histoire avant, que c'était une terre inconnue et que les icebergs ne conversaient qu'avec les pingouins. Si ce n'était pas les manchots, c'est très étonnant.
Oui, le Nord n'est pas toujours aussi bien connu du grand public que d'autres régions d'Europe, même si pourtant l'histoire du monde nordique est extrêmement riche, extrêmement fascinante et que nous disposons de sources très très nombreuses. Alors, c'est pour clore sur cette présence scandinave médiévale, elle a laissé des traces archéologiques. Je parlais tout à l'heure des ruines de la cathédrale de Garza, dans laquelle on a retrouvé un certain nombre l'objet de très belles choses, notamment une crosse épiscopale en ivoire de Morse, hein, montrant donc à une certaine époque, à son apogée, là, la communauté avait une certaine aisance. Et puis, ben, les Scandinaves ont laissé également un certain nombre, plusieurs dizaines d'inscriptions runiques, hein, donc des inscriptions runiques qui, pour bon nombre d'entre elles, au Groenland, sont des inscriptions à caractère religieux chrétien. Voilà. Je ne m'étends pas davantage sur le sujet parce que je crois que vos auditeurs ont certainement envie que l'on les ramène tout de même assez vite.
Oui, d'autant qu'il nous reste un quart d'heure, cher Vincent Sanson. Voilà. Donc, en un quart d'heure, il faut que vous nous expliquiez comment, que diable est allé faire le Danemark dans cette galère.
Le cavalier que je suis va donc passer au galop. Donc, je vous le disais au début de cette émission, en 1721, un pasteur norvégien, Hans Egede, reçoit du roi de Danemark l'autorisation d'aller monter une mission évangélisatrice. Protestante cette fois, bien évidemment, hein, au Groenland. Son fils Paul traduira d'ailleurs une partie des Saintes Écritures en groenlandais, ces Danois vont christianiser en grande partie la population inuite et puis établir des colonies commerciales le long de la côte. En 1814, dans le sillage des guerres napoléoniennes, la Norvège est cédée à la Suède par le traité de Kiel. Mais le Danemark conserve néanmoins le Groenland et les îles Féroé. Je vous avais dit tout à l'heure que, en 1261, le Groenland était passé sous la suzeraineté du roi de Norvège, mais au cours du Moyen-Âge, il y a eu une union entre les différentes monarchies danoises, et c'est donc entre les différentes monarchies scandinaves, et ce sont donc les Danois qui régnaient sur la Norvège jusqu'en 1814, où Bernadotte, devenu roi de Suède, récupère la Norvège, mais le Danemark donc conserve le Groenland. Les Féroé.
Vincent Sanson, juste une question. La motivation première, je ne veux pas faire d'analogie avec ce que fut la conquête espagnole et portugaise vers les territoires amérindiens, mais la motivation première de ce pasteur luthérien et donc de l'autorisation qu'il obtient du roi du Danemark pour s'en aller vers des terres groenlandaises, c'est une motivation religieuse. Oui, et dans les grandes expéditions telles qu'on peut les connaître, il y a toujours des botanistes, des économistes, des…
Le pasteur Egede et sa famille vont s'intéresser bien évidemment à la culture locale, aux langues locales, et vont avoir une œuvre scientifique. Ils vont publier très vite des textes, des descriptions qui vont être traduites dans plusieurs langues européennes, notamment le français, et qui vont faire connaître dès leur époque, hein, le Groenland, ou redécouvrir le Groenland aux Européens.
Les Anglais laissent faire, il n'y a pas de… parce que bon, l'Angleterre est loin, mais elle n'est quand même pas si loin que ça.
Tout au long du 19e siècle, hein, le Groenland reste clairement une terre danoise. D'ailleurs, la souveraineté danoise, elle est confirmée en 1933 par un arrêt de la Cour permanente de justice internationale. En 1940, point de bascule, évidemment, le Danemark est occupé par les forces armées allemandes, par la Wehrmacht, et à ce moment-là, les États-Unis vont occuper le Groenland pour empêcher les Allemands d'y débarquer, et le gouvernement danois va passer un accord avec le gouvernement américain pour que les Américains assurent la défense de l'île aussi longtemps qu'il sera nécessaire, donc aussi longtemps que le Danemark sera occupé par les forces allemandes. Il y aura d'ailleurs des épisodes assez peu connus du grand public, mais assez fascinant pendant la Seconde Guerre mondiale, de combats entre des patrouilles de forces spéciales utilisant des traîneaux tirés par des chiens et qui font en quelque sorte la chasse aux éléments allemands, aux stations météo que les Allemands essaient d'installer à l'est du Groenland pour établir des prévisions météo, guider les sous-marins, etc. Et c'est cette force spéciale qui est recrutée essentiellement à partir de Danois originaires du Groenland existe encore, hein, puisque c'est une des composantes aujourd'hui des forces spéciales de l'armée danoise, c'est la fameuse patrouille Sirius qui est toujours stationné au Groenland. Alors, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le Danemark retrouve sa souveraineté sur le Groenland. Et à ce moment-là, le président Truman, le président américain, propose d'acheter l'île pour 100 millions de dollars. Ce n'est pas la première tentative, hein, puisque les Américains, guidés par la doctrine Monroe, on voit bien que si on regarde une carte que le Groenland, même s'il est culturellement depuis toujours lié à l'Europe, est géographiquement très proche du continent américain et dans le prolongement du continent américain. Donc on comprend que dans le cadre de la doctrine Monroe, les Américains souhaitent assurer le contrôle. Ils ont fait des tentatives d'achat en 1967, en 1910, mais en 1917, les Américains ont acheté une colonie, une ancienne colonie danoise que les Danois possédaient depuis le XVIIe siècle, dans les Antilles, donc une partie des îles Vierges. Et lors de la tractation pour l'achat des îles Vierges par les États-Unis au Danemark, eh bien, le Danemark fait stipuler par les Américains qu'il renonce à toute prétention sur le Groenland. Hein. Donc, néanmoins, en 1946, Truman refait une proposition d'achat qui est refusée par le Danemark.
Et Vincent Sanson, oui. je voudrais juste que l'on fasse un petit état des lieux démographiques. On a une population groenlandaise entre 1721, donc l'installation du Danemark au Groenland.
La population groenlandaise aujourd'hui, elle est d'environ 60 000 habitants, hein, essentiellement sur la côte ouest, puisque l'est est beaucoup plus hostile d'un point de vue climatique. Sur ces 60 000 habitants, il y en a environ un tiers qui vivent dans la capitale Nuuk, sur la côte ouest, hein, donc une grosse partie de la population qui est concentrée sur la capitale, le reste dans un habitat qui est très dispersé. Pour prendre conscience quand même de la progression démographique, il y avait un peu plus de 6 000 habitants en 1820 et un peu plus de 9 000 en 1855, et nous sommes aujourd'hui à 60 000. Sur ces 60 000, il y a un peu plus de 80% de population de souche inuite, le reste étant essentiellement, évidemment, de souche danoise. Il y a des familles danoises qui sont installées depuis très longtemps, hein, depuis très longtemps au Groenland, et il y a évidemment beaucoup de familles mixtes, hein, mixtes inuites et danoises. Les langues pratiquées localement, eh bien, ce sont les différents dialectes groenlandais. C'est le danois, qui est aussi une langue officielle, et puis l'anglais qui prend une place de plus en plus importante. Alors, c'est une population qui, il ne faut pas le cacher, connaît un certain nombre de problèmes sociaux. Hein. Il y a un taux de suicide et un taux d'avortement qui sont particulièrement élevés dans la population groenlandaise, en particulier groenlandaise de souche inuit. Les conditions de vie sont assez difficiles, hein, puisque les infrastructures sont minces. Il n'y a pas de réseau routier, même s'il y a un axe en construction actuellement entre le Kangerlussuaq, qui est un des deux aérodromes internationaux du Groenland, et puis la ville de Sisimiut. Mais la plupart des liaisons se font par voie côtière, par ferry, ou bien par hélicoptère, hein, par voie aérienne, hélicoptère ou avion. À ce titre, d'ailleurs, l'armée danoise, qui a la responsabilité de la défense du Groenland, puisque ça, c'est un point qu'il est important de souligner pour vos auditeurs, le Danemark a acquis un statut d'autonomie. Donc, le Groenland a acquis un statut d'autonomie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un territoire qui a son propre gouvernement, qui a son propre parlement, qui est rattaché à la couronne, au Commonwealth danois. Donc, Sa Majesté Frédéric X, roi du Danemark, est donc le souverain du Groenland. Mais pour autant, ce territoire est autonome et il gère en propre la plupart des questions qui sont liées à l'organisation du territoire. Il y a deux prérogatives que conserve le Danemark, c'est celle de la politique extérieure et celle de la défense. Et cette présence de la défense danoise au Groenland, elle n'est pas négligeable. Hein. Il y a quatre frégates, bon, de conception un peu ancienne, qui devraient être remplacées prochainement, trois patrouilleurs, il y a des hélicoptères, il y a un avion de surveillance maritime, il y a un gros effort budgétaire qui a été consenti ces dernières années par le Parlement danois pour densifier également la présence de systèmes de radars, de drones, de surveillance en fait dans la zone. Il y a la fameuse patrouille Sirius, hein, cette force spéciale danoise. Et puis l'armée danoise localement, elle joue un rôle social, c'est-à-dire que lorsque les voies de communication deviennent très difficiles, bien, ce sont les bateaux de la marine de guerre danoise ou les hélicoptères qui vont assurer les évacuations sanitaires, qui vont assurer le transport de personnes, qui vont amener des médicaments. Donc, il y a un rôle social qui est important de ce point de vue. Mais bien évidemment, il y a un autre enjeu au Groenland qui est celui pour les États-Unis, et ce n'est pas pour rien que M. Trump a parlé d'intérêts vitaux pour les États-Unis, c'est que au nord du Groenland, donc sur la base de Thule, qui a été rebaptisée récemment par les Américains en Pitufik, hein, d'un nom local groenlandais, eh bien, il y a depuis la guerre froide des installations radar qui sont là pour servir de système d'alerte avancée en cas de tir de missiles balistiques russes par-dessus l'Arctique en direction des États-Unis. Et donc aujourd'hui...
Oui. Vincent Sanson, je vous interromps parce qu'il nous reste deux, trois minutes. Et comme j'ai fait un petit entretien avec Merayadec Raffray qui nous a parlé plutôt de la période contemporaine, je voudrais quand même que vous nous éclairiez sur le sentiment d'appartenance au Danemark par les Groenlandais. Alors, le sentiment des Danois à l'égard du Groenland.
Oui, je vais vous répondre. Au cours de ces dernières années, donc, on avait assisté à une progression des partis groenlandais, des partis politiques groenlandais, sur une ligne autonomiste très dure, hein, notamment socialiste et écologiste. Il se trouve qu'en 2025, les élections leur ont fait perdre un peu d'influence. Aujourd'hui, le premier ministre groenlandais est un premier ministre de tendance libérale. Le sentiment national groenlandais, c'est-à-dire la volonté d'autonomie groenlandaise, en tout cas la volonté d'indépendance, pas forcément d'autonomie complète, est forte, mais il y a également un attachement réel et sincère à la couronne danoise, et la couronne danoise elle-même est très lié au Groenland. Il suffit de voir à quel point les souverains danois ont toujours mis un point d'honneur à se rendre très régulièrement au Groenland, et quand ils se rendent au Groenland, être vêtus de tenues nationales groenlandaises, à apprendre à parler le groenlandais. Et il est bien évident que les déclarations très brutales et très inélégantes de M. Trump et de ses différents envoyés au Groenland ces derniers mois ont considérablement renforcé l'attachement des Groenlandais à la couronne danoise, parce que il y a bien sûr un courant au Groenland de gens qui sont assez revendicatifs sur une ligne qu'on appellerait chez nous décoloniale, hein, qui reproche aux Danois, de les avoir christianisés de force, qui reproche aux Danois d'avoir voulu daniser le Groenland, etc. Mais in fine, ils se rendent quand même bien compte que le fait d'appartenir au royaume du Danemark est une situation infiniment plus confortable, et que si demain il devait se trouver sous la férule américaine, il y a fort à parier que ses maîtres auraient beaucoup moins d'égards pour l'identité groenlandaise et l'identité du peuple groenlandais.
Merci beaucoup Vincent Sanson, notre émission se termine. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie au Mardi de la Mémoire que je recevais Vincent Sanson, ancien colonel de l'armée, ancien attaché d'ambassade à Copenhague et docteur en histoire, spécialiste de l'histoire de la Scandinavie ancienne. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés dans cette partie historique. Merci Vincent Sanson, au revoir.
Merci Anne, merci. Au revoir.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Merayadec Raffray, bonjour. Merci d'être avec nous pour prolonger aujourd'hui l'entretien que les auditeurs viendront d'entendre avec l'universitaire Vincent Sanson, avec qui nous avons parlé de l'histoire du Groenland. Merayadec Raffray, vous êtes rédacteur en chef Monde à Valeurs Actuelles et chroniqueur à ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie, parfois intervieweur, ce qui était le cas ce matin de notre préenregistrement. Et vous avez eu la gentillesse d'accepter de nous apporter votre regard de connaisseur de l'actualité et notamment de l'actualité américaine. En 2019, Donald Trump avait déjà évoqué l'idée d'acheter le Groenland, une proposition qui avait été jugée absurde par la première ministre danoise, Mette Frederiksen. Et en 2025, cet intérêt a réapparu. Est-ce qu'il faut y voir avant tout une stratégie de puissance dans l'Arctique face à la Russie et à la Chine, ou une logique d'accès aux ressources naturelles?
Eh bien, les deux, Anne. En fait, peut-être il faut rappeler à nos auditeurs que comment dirais-je, la médiatisation outrancière de la volonté de Washington de mettre la main complètement sur le Groenland n'est pas une lubie supplémentaire de plus de Donald Trump, le milliardaire new-yorkais, facétieux, parfois grossier, parfois aussi compliqué à suivre dans ses tweets. Et pour cela, il suffit de rappeler quelques dates de l'histoire. En 1867, pour la première fois, la jeune Amérique dit officiellement qu'elle souhaite, après l'Alaska, pouvoir racheter, acquérir aussi le Groenland. Elle reformule cette proposition en 1910, puis en 1946, au sortir de la guerre. L'Amérique a notamment défendu le Groenland et a fait du Groenland une base militaire importante en fait dans sa guerre contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis les choses s'étaient un peu tassées jusqu'au moment où, en 1959, les États-Unis signent un traité de coopération et de défense très important avec le Danemark. Danemark qui, vous le savez peut-être, ou en tout cas je le rappelle, est possesseur du Groenland depuis 1721. Donc c'est évidemment une terre ancienne de la couronne danoise. En 1959, donc Washington et Copenhague signe un traité très important de défense qui permet en fait aux États-Unis de faire quasiment ce qu'elles souhaitent au Groenland. C'est un traité qui a été reconduit, réactualisé récemment en 2004 et qui permet et qui en fait focalise, enfin qui concrétise comment dirais-je, le parrainage des États-Unis, le parrainage militaire et de défense des États-Unis à travers la fameuse base de Thule. Alors, pour ceux qui sont fans de l'histoire de la guerre froide, c'est un nom qui est très connu aujourd'hui. Ça s'appelle Pitufik. C'est au nord, sur la côte nord de du Groenland, au nord de la capitale Nuuk. Et actuellement, pour donner une idée, alors pendant la guerre froide, Thule était une base très très importante pour l'Amérique, puisque l'Amérique y avait notamment basé des bombardiers stratégiques et qui armait des bombes nucléaires. D'ailleurs, au passage, certains connaissent l'anecdote, un des bombardiers s'était écrasé en atterrissant au sol et avait perdu une bombe atomique qui est d'ailleurs toujours enfouie quelque part sous la glace et personne ne l'a retrouvée jusqu'à présent. Et aujourd'hui, les Américains sont évidemment, après la guerre froide, ont démantelé une bonne partie de leurs installations, mais conservent à peu près, allez, pour faire simple, entre 700 et 1 millier d'hommes à Pitufik, donc l'ex-Thulé, à peu près 200 militaires et 500 civils, et qui arment essentiellement des radars de trajectographie, pardon. Voilà le dispositif actuel en américain au Groenland, donc qui est loin évidemment de ressembler à une invasion ou une comment dirais-je une invasion. Et en fait, pour répondre directement à votre question, l'Amérique a une double visée, de double visée sur le Groenland. Le Groenland est
Est-ce
une.
que, Bériadec, je vous interromps juste une seconde justement pour recadrer un peu ma question, parce que du coup, vous avez répondu, et c'est très bien, à la deuxième qui était la question de la position isolée de Donald Trump, alors que vous l'inscrivez dans une position beaucoup plus longue américaine, dans un contexte
Traditionnelle, une position traditionnelle des États-Unis. Oui.
voilà, une vision traditionnelle effectivement des États-Unis d'Amérique envers le Groenland. Donc revenons à ma question qui était plus large, c'est ce que vous alliez faire, mais voilà, je
Vous avez
recadrerai
raison.
les choses pour nos auditeurs. Effectivement, cette stratégie de puissance, cette géostratégie au sein d'un Groenland, dont on peut dire d'ailleurs que c'est un peu le paradoxe de Donald Trump. Lui qui ne croit pas au réchauffement climatique, il est en train de nous montrer qu'en fait le réchauffement climatique, il y croit un peu, parce que cette terre, ex-terre verte, elle peut être une zone de passage entre les trois puissances que sont les États-Unis, la Russie et la Chine, et puis un accès aux ressources naturelles dont vous allez certainement nous parler maintenant. Voilà, pardon de vous avoir
Non, non,
interrompu, Bernadette,
c'était
mais
excellent,
voilà.
excellent Anne. Et donc, pour répondre directement à votre question, commencez par dire premièrement que le Groenland est la plus grande île du monde après l'Australie, et sa position est absolument stratégique, au moins à deux titres, effectivement. Alors, la première, vous l'avez évoqué, c'est en raison du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, je suis désolé de contredire certains nombre de vos auditeurs, mais il existe bien, et il est le plus visible et le plus rapide au pôle Nord en particulier, où s'esquisse de plus en plus comment dirais-je, une ouverture des eaux polaires à la fois au nord-est et au nord-ouest. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle simultanément la Russie a réinvesti en fait ses bases polaires et a remonté une véritable stratégie de puissance également au pôle Nord. Donc ça, c'est la partie nord-est. C'est la route qui permettra bientôt, peut-être toute l'année, pas encore aujourd'hui, de relier de manière beaucoup plus rapide l'Asie à l'Europe et à l'Amérique via en fait la route maritime qui longe les côtes russes au nord-est. Et de l'autre côté, c'est moins rapide, mais ça s'esquisse aussi, c'est de relier le Pacifique via l'ouest, pardon, en longeant les côtes canadiennes. Et à ce titre-là, il y a un impact militaire, c'est que la Chine aujourd'hui amène ses navires militaires par le nord, si vous voulez, du côté du Groenland, pour commencer à cartographier ces eaux. Et les stratèges américains anticipent le jour où ils devront faire face aux premiers sous-marins nucléaires militaires chinois qui débouleront par la route traditionnelle de l'Atlantique Nord, qu'empruntait pendant la guerre froide et que recommence à emprunter aujourd'hui la sous-marinade russe, à laquelle donc les Américains, les Français, les Britanniques doivent faire face aujourd'hui. Ça, c'est le premier aspect, donc un aspect crucial pour les routes maritimes, qui concernent à la fois les routes commerciales des marchandises stratégiques pour la puissance, les métaux précieux, les minerais rares, etc., mais aussi des routes stratégiques militaires. Le deuxième aspect, c'est que le Groenland, en fait, est à la latitude la plus courte des routes balistiques permettant entre le continent asiatique et le continent américain. Autrement dit, lorsqu'un Chinois ou un Russe veut lancer un missile stratégique, la route la plus courte pour toucher l'Amérique, ça passe pas par l'équateur, ça passe pas, ça remonte vers le nord, vers le pôle, pour ensuite redescendre, et c'est la route la plus courte étant donné la courbure de la Terre. Et c'est la raison pour laquelle les Américains ont l'ambition de comment dirais-je, de bâtir, d'étendre une toile d'araignée de défense anti-missile aérienne qui s'appelle le Dôme d'Or, qui est une espèce de bouclier multivecteur. Et là où est la nouveauté, c'est qu'il y a aussi des vecteurs qui sont spatiaux, c'est-à-dire qui sont basés dans l'espace. Et les Américains, les stratèges américains disent qu'ils ont besoin du Groenland pour investir, pour monter ce Dôme d'Or qui est un défi technologique et un gouffre financier. Les stratèges d'ailleurs français pensent que c'est une chimère à la fois technologique et financière. On pourrait y revenir si vous voulez. Et puis le troisième aspect stratégique du Groenland, il est aussi naturel. Savez-vous aujourd'hui, pour résumer quatre chiffres, que le Groenland possède 10% des réserves d'eau douce de la planète, que le Groenland concentre 10 à 15% des terres rares de la planète, et les deux derniers chiffres sont plus sujets à caution, mais ils esquissent l'importance du Groenland en matière de ressources naturelles. Les experts les résument en deux chiffres, 20% des réserves non découvertes de pétrole et 30% des réserves non découvertes de gaz. Et la course au sous-sol riche du Groenland a déjà commencé. Les Chinois notamment ont des ambitions, les entreprises chinoises ont des ambitions, souhaitent prendre des parts de marché pour pouvoir construire des usines, des mines et des usines. Et les Américains ne veulent absolument pas, veulent barrer la route aux Chinois sur ce Groenland qu'ils considèrent comme leur précaré, comme le Venezuela, comme l'Amérique du Sud. C'est exactement le même raisonnement que fait Trump et que font Trump, ses stratèges et ses grands patrons qui veulent couper la Chine des approvisionnements vitaux pour être une grande puissance, le pétrole, le gaz, donc les énergies, mais aussi les métaux rares. Et une fois qu'on a dit qu'on a décliné tout cela, on comprend la raison pour laquelle l'Amérique souhaite réaliser quasiment une OPA sur les Groenlandes. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, Anne.
Merci Mériadec Raffray, c'était très clair et je vais reprendre la petite blague qui circule actuellement beaucoup. Si Hormuz est un détroit, qui sont les deux autres? Eh bien, on va citer les deux détroits justement qui sont au Groenland. Il y a le détroit de Davis et le détroit de Nair. Je ne sais pas comment on prononce, ce sont deux anglo-saxons. Ben voilà nos deux autres détroits extrêmement importants puisque je rappelle aux auditeurs, nous l'aurons déjà dit dans la première partie de cette émission, mais le Canada n'est séparé du Groenland que de 26 kilomètres.
Merci Anne.
Merci Mériadec Raffray. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Monde à Valeurs Actuelles et que vous nous avez apporté votre éclairage et les compléments d'informations nécessaires pour comprendre cette volonté américaine de s'emparer du Groenland. Chers auditeurs, à mardi prochain. Au revoir.
Vous venez d'entendre Les Mardis de la Mémoire, dirigé par Anne Collin. Émission préenregistrée le 21 avril 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mardi 5 mai, de 10h à 11h et réalisée par Benoît et Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.